Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de notre rendez-vous dominical dédié à Bactus qui prêche, comme vous le savez depuis très longtemps, la consommation modérée et responsable. Aujourd'hui, une émission spéciale d'Invino Sud Radio dédiée au grand vin d'Occitanie. Nous sommes en public et délocalisés, accueillis par les domaines Paul Mas, comme hier d'ailleurs, en présence de Jean-Claude Mas et de Philippe Forbrac. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Tout va bien Pierre, bien dormi. Bonjour. La vie est belle hein. Petit footing dans les vignes ce matin, Jean-Claude?
Oui. Footing dans la cave surtout.
Ouais, c'est vrai que c'est chaud en ce moment pour vous.
Et tour des vignes pour moi.
Et tour des vignes, quoi. Bon, allez, c'est très bien. Là. Deux nouveaux invités qui vont passer l'émission à nos côtés. Paolo Bucanova, qui est le directeur commercial et le patron d'achat aussi du repère de Bacchus. Et puis Stéphane Tournier, le chef étoilé du restaurant Ne pas louper à Toulouse, les Jardins de l'Opéra, place du Capitole. Bonjour Stéphane, bonjour Paolo.
Bonjour.
Vous avez bien dormi, vous aussi, tout va bien.
Que c'est la vieille.
Philippe Forbach, on va commencer par une petite présentation de ce vignoble d'Occitanie. La région est belle, elle est grande et elle recèle des terroirs divers et variés.
Exactement.
Vous avez 7 heures.
Oui. Merci beaucoup. 13 départements, 270 000 à peu près hectares de vignes répartis entre les vignobles du Languedoc et du Roussillon qui nous accueillent aujourd'hui, surtout le Languedoc, mais également tout le vignoble du Sud-Ouest puisque l'Occitanie aujourd'hui, effectivement, la grande région administrative couvre à la fois des vignobles qui sont extrêmement influencés par l'océan Atlantique, tout le vignoble du Sud-Ouest, en commençant par les vins de Saint-Mont, Madiran, Jurançon, mais revenant ensuite sur Cahors, Fronton, Gaillac, etc. Et ensuite, la liaison se fait du côté pas très loin de Limoux, que connaît bien Jean-Claude, avec les vignobles de la Malpère et de Cabardès, par exemple, qui sont, eux, avec l'influence à la fois océanique, mais également méditerranéenne. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en termes d'encépagement, on a effectivement ici un rassemblement, une mixité de cépages qui font que les cabernets ou les merlots cohabitent avec les grenaches ou les syrahs, par exemple, et en donnant vraiment de jolis résultats. Puis ensuite, on revient vers la Méditerranée qui nous accueille sous son magnifique soleil.
Ah,
et
puis très, très
et là, entre le Roussillon, qui a quand même beaucoup de spécificités, à la fois en termes peut-être pas de cépage, parce que c'est quand même le grenache, même s'il y a aussi des muscats célèbres comme ceux de Rivesaltes que vous adorez, mon cher.
Ah, j'adore. Avec modération, mais voilà, on les adore quand même.
Les grands grenaches de Banyuls, de Morio d'ailleurs. Les vins d'ailleurs, les vins doux naturels, qui sont extrêmement célèbres dans le Roussillon, perdent un peu pied en termes de volume de production et de commercialisation aujourd'hui. Au profit de vins plus secs, donc les Côtes du Roussillon, par exemple, des terroirs particuliers, d'altitude. Aussi, on voit aujourd'hui migrer la vigne. C'est un sujet que l'on développe souvent
hier,
avec l'évolution du climat. On gagne un peu en altitude pour avoir notamment plus de fraîcheur et notamment des nuits plus fraîches qui permettent de moins dégrader effectivement les acidités et d'avoir des vins finalement plus équilibrés. C'est ce qui est recherché. Et puis ensuite, pour terminer un peu ce parcours extrêmement rapide, les vins du Languedoc, extrêmement grande région viticole française en termes de surface, en termes de volume de production, pendant très longtemps vouée à une culture de vin d'entrée de gamme et aujourd'hui à une diversité avec une hiérarchisation à la fois de cru et de niveau qualitatif qui est vraiment extrêmement intéressante pour le consommateur, avec des vins de plus en plus qualitatifs également. L'ensemble de l'Occitanie, c'est 90 appellation ou dénomination, 50 AOP ou AOC, 40 IGP.
Une vraie mosaïque aussi, il n'y a pas
et
que la Bourgogne. Hein.
Les deux plus grandes, c'est, en termes de volume, c'est Languedoc, pour l'appellation AOC, avec notamment quelques secteurs particuliers privilégiés comme les grès de Montpellier à quelques, voilà, autour de nous. Mais également, en IGP, il y a l'appellation Pays d'Oc, qui est OOC, qui est effectivement une des grandes appellations ou dénominations d'IGP en France.
C'est 50% de la production de Languedoc. Voilà.
Et vous, Jean-Claude, on en a parlé hier rapidement. Donc vous avez décidé de créer tous vos vins uniquement dans cette région. Vous n'avez jamais été tenté par le Bordelais, par l'Alsace,
la Bourgogne? J'ai eu la chance de vivre dans le Bordelais. J'ai eu la chance de vivre un peu dans pas mal de pays.
Notamment les États-Unis. Oui.
À droite, à gauche, de visiter l'Italie. Et la conclusion que j'en tire, c'est que c'est probablement la plus belle région du monde ici.
Et... en plus, c'est vrai, on va se faire engueuler par les Bordelais, par tout le monde.
Et
je vois déjà des mails qui vont arriver là.
Et probablement que les Romains, il y a 2500 ans, on avait bien compris, et on peut faire les plus grands vins au monde ici.
Alors, au niveau de la distribution, on parle un peu, donc on a eu là une belle présentation du vignoble via Philippe Forbach. Vous concernant, Jean-Claude, vous avez choisi le virage de l'international assez rapidement. Vous nous rappeliez, c'est une entreprise récente qui marche très bien, qui a été créée il y a 20 ans, et vous êtes tourné vers l'international. Peut-être grâce à vos expériences passées, notamment
exactement,
en terre bordelaise.
Exactement, parce que aussi par les études, parce que j'ai vu dans le monde, j'ai vécu aux États-Unis. Et si vous voulez, quand on fait le métier du vin, je suis revenu vraiment par passion. Hein, Je ne sais pas pourquoi on revient à ses racines, mais en tout cas, je suis revenu par passion. Et mon père m'a appris la passion de la nature et de la vigne. Le métier du vin, je l'ai appris différemment, notamment avec mon mentor italien, Giorgio Grai, où le métier du vigneron comprend évidemment la vigne, mais aussi la vinification, l'élevage, l'assemblage, l'embouteillage et aussi la commercialisation. Donc j'y suis revenu avec, et j'ai été servi par une région extraordinaire qui m'a permis de me développer, comme je me suis développé grâce à une philosophie que j'ai définie comme vin de tradition avec une attitude nouveau monde. Une attitude nouveau monde.
Genre des gens sympas qui sourient, pas forcément des vignerons qui se taisent, non ?
Et des vignerons qui ont la réponse à tout. Ouais. Il y a le consommateur aussi qui a droit à dire son avis.
Aujourd'hui, donc, combien de bouteilles commercialisées chaque année, Jean-Claude, et quel chiffre d'affaires pour l'entreprise, quoi ?
On fait environ 60 millions d'euros et on commercialise 24 millions de bouteilles que l'on produit nous-mêmes.
Oui, bien, c'est
malgré,
ça.
Malgré la taille qu'on a, on n'est pas un négoce classique. On est vigneron, c'est-à-dire que soit on achète des raisins, soit on produit nos raisins et on les vinifie. Oui. Pour l'export, un point important, si je suis à l'export, c'est que mon analyse de départ, quand je me suis lancé, je me suis dit vendre du vin en France, c'est un peu comme on vend des hamburgers aux États-Unis. C'est décrié parce que c'est pas bon pour la santé. Le marché est en retrait, il y a trop de concurrence, donc il faut aller chercher ailleurs. Et j'ai appliqué, sans le savoir, une stratégie qui a fait école à Harvard, qui s'appelle The Blue Ocean Strategy, la stratégie de l'océan bleu.
Et aujourd'hui, le top 3 de vos pays hors de France,
c'est ? Top 3, c'est Angleterre, la Hollande est très bien, et après, on a, disons, l'Amérique du Nord, mais aussi le Japon, Japon-Asie, qui est très bien. Quoi. Et après, des pays comme l'Italie, où on est très fort.
Paolo, un petit mot sur le repas de Bacchus. Donc là, aujourd'hui, c'est un groupe de cavistes. Vous avez combien de caves au total, Paolo ?
41 caves.
41 caves, uniquement en région parisienne. Il y a un choix qui a été fait, quoi ?
Depuis le départ, depuis 83, région parisienne, pour l'instant région parisienne.
Ouais, et faites rêver tous les vignerons qui nous écoutent, là. Vous vendez combien de bouteilles de vin par an ?
700 000.
700 000, quoi.
Pour un chiffre d'affaires d'à peu près 15 millions d'euros.
15 millions d'euros, quoi. Alors, aujourd'hui, donc, émission spéciale consacrée au vin d'Occitanie, le Languedoc notamment, accueilli par Jean-Claude Mas. Vous en pensez quoi ? C'est-à-dire d'un point de vue distribution, commercialisation, est-ce qu'il y a eu, Philippe le rappelait, une évolution qualitative ? Certes. Est-ce que le cheminement a été le même dans l'esprit du consommateur ?
Alors, évolution qualitative, je suis à 100% d'accord avec Philippe. Ensuite, aujourd'hui, on a tendance à dire que les vins du Languedoc sont à la mode. Moi, je pense que le terme « à la mode » n'est plus d'actualité. La région Languedoc et les vins du Languedoc-Roussillon sont affirmés aujourd'hui. Ils existent. Ils étaient sans doute à la mode il y a 15 ans, il y a 10 ans, parce que est à la mode quelque chose de méconnu. Aujourd'hui, c'est plus méconnu. Les gens y viennent de façon très naturelle. Pour moi, c'est une région aujourd'hui qui est placée en termes de distribution et chiffre d'affaires juste en dessous de Bourgogne et du Bordelais.
Ah oui, donc, en termes de ventilation de vente. Ah oui, c'est bien, c'est important. Quoi.
Avec, par exemple, des positionnements où il y a 10 ans...
Et pour une clientèle parisienne.
Je parle de ma vision, alors, qui est la vision parisienne.
Paolo, je rebondis un peu ce que tu dis, parce que c'est hyper important. Si nous, on est revenu, si on a notre partenariat, si on est revenu pour vendre en France depuis, avec de gros investissements depuis 4 ans, c'est parce que les consommateurs qu'on voit en France, surtout à Paris, sont ce que j'ai appelé les néo-consommateurs. Donc nous, on a développé cette gamme de vins aujourd'hui qui s'adapte sur le marché français grâce aux néo-consommateurs qui viennent, qui sont intéressés. Qui sont
par... Stéphane Tournier, vous, à votre restaurant, donc les gens de l'Opéra à Toulouse, place du Capitole, vous avez une carte de vin fourni, vous êtes un des rares chefs, il y en a quelques-uns quand même, hein, français ou internationaux, a vraiment aimé le vin, on va le dire, voilà, et c'est très bien. Vous laissez une large place aux vins de la région, d'Occitanie, aux vins de Mas, par exemple.
Ben, de toute façon, le vin, pour moi, au restaurant, c'est indispensable. C'est-à-dire une bonne table, un bon repas sans vin, il y a un truc qui ne va pas.
C'est sûr.
Donc,
bon, comme ce n'est pas le bon repas, c'est bon.
Voilà. Le problème, c'est que maintenant, on a 4 personnes à table et avec une voiture, ils ont 4 volants. Donc, bon, il faut boire modérément, mais il faut se faire plaisir.
Vive la voiture autonome.
Oui, bientôt. Après, moi, je suis chauvin. Donc forcément, je vais favoriser tous les vins de l'Occitanie. L'Occitanie, comme on disait, c'est Cahors, c'est Fronton,
c'est Gaillard. Mais c'est très bien, c'est pas le cas de tous les restaurateurs. Hein.
Et puis, alors, j'adore tout le bassin méditerranéen parce que je trouve que les vins méditerranéens ont du caractère. Ouais. Et après, revenir dire que c'est à la mode, c'est vrai que c'est pas une question de mode, ils font du bon vin.
Ils font du bon vin, voilà.
Et
c'est reconnu en tant que tel.
Oui, voilà, c'est
du bon vin,
peine,
a un très bon rapport qualité-prix. Moi, je travaille le domaine Pont-le-Mas parce qu'il y a 2 ou 3 vins que j'affectionne particulièrement, même s'il y en a beaucoup de très, très bons.
Et vous les expliquez. Vous êtes là, on est là pour expliquer.
On
explique,
il y a un sommelier qui explique.
Paolo, d'un point de vue marketing, est-ce que les vins d'Occitanie, de Languedoc, ont fait beaucoup de progrès ? Parce qu'on l'a vu qualitativement, c'est fait. Vous, le professionnel de la distribution, en tout cas en France et en région parisienne ?
Oui. Moi, je pense déjà que des gens comme Jean-Claude, avec sa vision internationale, c'est des gens qui ont amené beaucoup en termes de modernisation un petit peu de, des packaging, de la communication, parce que ça c'est très important, puisqu'on avait tendance quand même à parler de petits vignerons, de petits domaines, de petites exploitations.
On les aime, mais il n'y a pas qu'eux.
Il n'y a pas qu'eux, et surtout, même ces gens-là aujourd'hui, font des gros efforts, c'est-à-dire qu'ils changent beaucoup leur communication. Il y a les réseaux sociaux, il y a les étiquettes qui ont vraiment évolué, et je pense que les gens comme Jean-Claude ont amené cette
promotion,
nouveauté.
Par exemple dans vos boutiques, hein, quasiment 50 boutiques en région parisienne, est-ce que les vignerons viennent? Ils se disent, allez Paolo, on vous donne des bouteilles, on vient, on passe un peu de temps, on est présent, on va voir le client.
Bien sûr, bah, de toute façon aujourd'hui ça ne peut passer que par ça, hein, parce que la concurrence elle est telle que si le vigneron n'est pas sur le terrain, c'est compliqué de vendre du vin. Mmh. Donc faire du vin aujourd'hui, c'est presque facile. La difficulté, c'est de le vendre.
Mmh. Et la jeune génération en Occitanie, parce qu'il y a des gens comme nous, et puis il y a des gens un peu plus jeunes qui arrivent, ils sont fins, ils sont sympas, ils voient les choses différemment, ils mettent de la couleur un peu partout. C'est une chance aussi pour la région, Jean-Claude.
Bah oui, on leur vend le luxe rural. Ah, voilà, une fois qu'ils l'ont compris, bah, ils viennent et ils s'éclatent. Prend un peu de temps. C'est les parties, vous savez, c'est ces petites choses de la vie qui la rendent différente et beaucoup plus agréable.
Donc, ça veut dire que pour vous, Paolo, donc c'est une vraie implication sur le marché français, c'est une vraie réussite et ça va perdurer. Quoi. C'est-à-dire qu'on est optimiste sur.
Moi, je suis convaincu que ça va perdurer parce que y a tout, il y a une diversité, il y a aujourd'hui parler d'un style Languedoc, on peut pas le définir. C'est tellement diversifié.
La mosaïque, on parle de Philippe.
C'est tellement diversifié.
Mais on est un pays, c'est extraordinaire. On produit autant qu'un pays, produit autant que l'Australie.
Ouais. Donc on n'arrivera jamais au bout de la connaissance et de la dégustation. Il y a toujours de la découverte.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, retour à Montagnac au domaine Paul Mas. On est vraiment très bien accueillis. On parlera de sujets savoureux, de gastronomie, puis alors des accords. Mais Evin, à tout de suite.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à Montagnac pour cette émission spéciale en public et délocalisée au domaine Paul Mas. À mes côtés, Paolo Bucanova, Philippe Forbrac, Jean-Claude Mas et puis Stéphane Tournier. Alors Stéphane, vous êtes né à Lourdes et vous avez toujours rêvé de devenir chef ou pas?
Oui, il y a trop d'eau à Lourdes, donc je voulais faire un peu la cuisine.
Donc vous avez bien prié, ça a marché. Quoi, c'est ça
a bien marché.
Ça a fonctionné.
Vous êtes passé notamment à Paris, hein, chez Taïwan et au Crillon, c'était de belles aventures?
Oui, le Crillon surtout avec Christian Constant, une très très belle aventure. Mais avant de partir à Paris, j'ai travaillé quand même sur Toulouse, Lucien Vanel, André Daguin à Auch. Et je suis arrivé comme un bon provincial à Paris et j'ai découvert la capitale, avec les bons et les mauvais côtés. Ouais. Mais j'en garde un très très bon souvenir.
Et après, vous êtes aussi exporté, notamment aux Amériques, hein, et puis à Singapour.
Oui, l'envie d'aller découvrir d'autres horizons. Et aux États-Unis, il n'y a pas que le burger, et il y a du vin aussi.
Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et ça peut être bon le burger, c'est horrible de dire ça.
Par contre, à Singapour, il y a à manger, mais le vin, il y a beaucoup de bière.
Singapour, combien de temps vous êtes resté?
Un peu plus d'un an, ça m'a suffi.
Et ça a un peu influencé votre style, un peu ces aventures internationales ou entre le Liban, Singapour ou les États-Unis?
De toute façon, la cuisine, la cuisine française s'est toujours enrichie de, on va dire, des migrations. Et partir à l'étranger, ça permet de s'ouvrir un petit peu sur le monde et d'ouvrir les oreilles. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, la cuisine française, on campait sur nos positions. Donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans mes recettes, je mets des épices.
Des petites inspirations.
La citronnelle, du gingembre. Et sur les vins du Languedoc, il y a des trucs super sympas.
Ça marche avec beaucoup de choses d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure avec Philippe. Vous avez repris donc les Jardins de l'Opéra à Toulouse, c'était en 2006 de mémoire. C'était et c'est toujours l'établissement de référence de Toulouse, gastronomique.
Ouais, j'aime bien quand on dit ça. Il y en a d'autres maintenant qui arrivent.
Une chance pour la ville, non?
Oui, je pense qu'il faut garder dans une ville de beaux établissements et des maisons un petit peu emblématiques. Ça a été compliqué de le reprendre.
L'endroit est super. Hein.
Oui, très sympa.
Et d'ailleurs, super, j'y reste parce qu'on y est bien.
Ah oui, on y est bien.
Vous êtes au frais en plus là-bas.
On est au frais, on est dans un...
Vous avez vu combien? Parce qu'on parlait de 45 degrés. Là, vous avez 40 degrés aussi à Toulouse cette année?
Non, en cuisine, il fait beaucoup moins. Pas de problème.
Bon, alors dites-nous là, Stéphane.
Ça dépend de l'humeur du chef.
Parfois, c'est chaud.
Le chef caractériel, comment ça, Jean-Claude Mas? Non. Alors,
caractère, c'est pas pareil.
En 2012, Stéphane, vous avez atteint votre nirvana professionnel avec cette première étoile Michelin. C'est vraiment la consécration, ça?
Alors, non, on peut pas dire consécration. Ça fait plaisir parce que c'est le travail accompli, c'est une récompense du travail accompli. Et je crois que pour l'équipe et pour moi-même, c'est une belle récompense. Mmh. Voilà. L'accomplissement professionnel, c'est d'être heureux dans ce que l'on fait et de prendre plaisir tous les jours.
Vos plats signature quand on va venir vous voir demain matin? Au petit déj, quoi.
Déjeuner, une omelette à la truffe au petit déj.
Ah, ça, c'est très bien. Hein, vous avez quelques plats à ne pas louper, en tout cas, quand on
alors,
est chez vous?
On a quelques plats signature, mais qui sont arrivés en fait un peu par hasard, parce que pour moi, je changeais la carte souvent et je me suis rendu compte qu'il faut laisser le temps au plat de s'installer. Mmh. Et c'est le client qui a dit que c'était des plats qu'il fallait garder. Donc, foie gras aux huîtres, citronnelle, gingembre. Donc, c'est un petit souvenir d'Asie. Le riz de veau. Pour moi, c'est là-bas la Rolls Royce des amants, avec une langoustine, une sauce blanquette.
Ça y est, on a faim, Jean-Claude et Philippe. Mmh. Et Paolo, hein, et ça y est, on a faim.
Comme ouais. On est à Toulouse, il y a quelques temps, on s'est amusé il y a quelques années à créer un dessert autour de la violette qu'on appelle la brique toulousaine.
La brique toulousaine, quoi.
Donc ça a la forme d'une brique, mais c'est beaucoup moins lourd.
Bon, alors aujourd'hui, donc, émission spéciale consacrée à l'Occitanie. Stéphane Tournier, qu'est-ce qu'on a comme type de spécialité dans cette belle région? D'abord, c'est pareil, hein, Philippe expliquait que c'était terroir varié et sympathique. Ouais. Côté gastronomie, c'est pareil.
Alors, il faut pas. Alors, quand on dit Toulouse, on dit cassoulet, mais il faut pas rester que sur le cassoulet. Il y a plein d'autres choses. Alors, on est
le
très riche.
Le cassoulet en plus, parce qu'il y a tout, il y a toutes les influences.
Ouais, alors là, à chaque clocher, il y a un cassoulet.
Ah, fricassé limousin, attention. Hein.
Ouais, cassoulet de Collioure.
On va pas se fâcher. Il y a de belles choses. Mais c'est vrai que les plats. Bon, moi, je suis issu des Pyrénées, donc il y a la garbure. Ouais. On a le cassoulet, mais il y a la saucisse de Toulouse. Il y a tout autour du canard. On arrive dans le Languedoc. C'est vrai qu'il y a d'autres spécificités, pardon. Il y a la Méditerranée, donc il y a toutes les influences maritimes. On est très, très large en choix.
Moi, je dirais un petit mot par rapport à ça, parce que, comme vous savez, je me suis intéressé à la restauration pour faire l'art de vivre autour de l'onotourisme. Et c'est vrai que du côté de Toulouse, vous êtes servi par des matières premières exceptionnelles, que ce soit en viande, en fromage, etc. Alors nous, ici, on est beaucoup plus pauvres, parce que la Méditerranée, malheureusement, ce n'est pas l'Atlantique au niveau des crustacés, des fruits de mer, des poissons. La viande, bon, les vaches ici, il fait un peu trop chaud. Hein.
Il y a des chèvres.
Quelques chèvres, oui.
Il y a deux, trois chèvres.
Non, mais il y a un truc montagnac, vous savez que c'est la ville de la chèvre, mais d'une chèvre très spéciale, parce que son lait se transformait en vin. Ah. Alors, c'est ma fille qui m'a raconté ça, mais je pense que c'est vrai.
Quelqu'un qui est né à Lourdes, celui.
Il n'y a que des miracles. Il n'y a que des miracles.
Mais ici, on est. Soja n'a qu'à bien se dire.
Ici, il y a ce qui reste à découvrir. Moi, je suis un fan de la Ligurie. Hein. J'aime beaucoup la ville de Gênes. Mais ici, on est en Ligurie bis. Mais à se réinventer, à recréer. Parce que tous les petites terrasses que vous voyez là tout à l'heure, quand on est passé la zone qui avait brûlé là, vous voyez, toutes ces petites terrasses, c'était de l'olive, des plantes, des plantes aromatiques, des légumes, etc. Je pense que cette région a un potentiel au niveau légumes extraordinaire.
Donc, vous en pensez quoi, Stéphane, des légumes? Parce que c'est qu'on ne parle pas toujours des légumes.
Ah ben, les légumes, pour moi, dans ma cuisine, c'est super important. Alors, on parlait. Moi, j'utilise beaucoup de producteurs bio parce que je trouve qu'il faut manger sainement et bon. Et, la viande, le poisson, les protéines animales, c'est excellent, mais il ne faut pas oublier quand même que le végétal a une part importante. Et dans ma cuisine, c'est une part très, très importante.
Mmh. Paolo, vous aimez la bonne gastronomie? Et vous avez un avis sur cette belle région en matière de produits, pas forcément de légumes?
Déjà, quand on travaille dans le vin, on aime forcément la gastronomie, et puis je pense que ça se voit.
Oh, ça se voit pas du tout.
Donc à la radio, ça se voit
vous
pas.
Mais
radio,
ça se voit. On vous trouve très beau. Alors, Jean-Claude, vous avez aussi un restaurant là qui nous accueille, donc côté Mas. Donc, c'est aussi œno-touristique. Voilà, le vin, c'est bien, la gastronomie, c'est bien, mais on va au-delà. C'est la visible esprit du vin.
Disons, moi, j'essaie de partager ce que j'aime à travers ce site, donc que j'ai créé en 2000, à partir de quel j'ai démarré en 2002.
From scratch, il n'y avait rien.
Il n'y avait pas grand-chose.
Il n'y
avait vraiment pas grand-chose. Donc le vin, mais tout ce qui vit, tout ce qu'il y a autour du vin est exceptionnel. Vous avez rencontré des gens exceptionnels. Le vin est un liant sociétal. Ça permet de rencontrer des artistes. Ça permet, dans la restauration, vous savez, des artistes, dans la musique. Je ne connais pas de personne qui ait du goût et qui ait un savoir-vivre et qui ait une envie de vivre qui n'aime pas le vin.
Ouais.
C'est une affirmation qui est un peu... Mais je la...
Donc, vous la partagez.
Bon, dans notre société, on va dire, dans notre monde occidental. Après, il y a d'autres. On ne peut pas. Donc, ce qu'on offre ici, donc, c'est tout un ensemble de choses autour du vin. On fait de l'huile d'olive. On a notre potager. On a nos vergers. Ensuite, il y a tout ce qui est de partager. Ce matin, vous avez fait un jogging dans les vignes.
Excellent footing. On peut y aller à cheval.
Vous avez vu les paysages qu'on voit, c'est extraordinaire. De côté de la vallée de l'Hérault, de l'autre côté, la mer, l'étang, Sète.
Et les Pyrénées.
Et les Pyrénées, tout, on a une vue à 150 km. Donc il y a toute cette
émotion. On voit de très loin le repère de Bacchus, mais très très loin. Vraiment, c'est vraiment monté. Oui.
Il y a toute cette émotion qu'on peut avoir, liée évidemment au vin, puisque c'est ce qui me fait vivre, mais aussi ce que je veux partager. Et donc c'est, à travers cet onotourisme, on peut émerveiller ces six sens, quelque part.
Oh là là là. Alors, on arrive sur les accords mets et vins, là, Philippe. Enfin, vous qui êtes un gourmand. Pareil, vous êtes allé d'ailleurs au Pays Basque, là, chez les voisins, goûter oui, un ça. Jambon d'un monsieur qu'on a accueilli au moins deux fois dans l'émission.
Pierrot Taïsa.
Et c'est là que vous avez été en Pantalasso, vous avez maigri, vous avez perdu 300 kilos, c'est ça, non?
C'est à peu près ça, oui.
Non, mais Optesa, c'est extraordinaire, quand même. On peut le saluer, là, on le salue.
Pays Basque, c'est extraordinaire. Il a brillé au G7 aussi, puisque
oui,
il a
c'est
eu
ça.
La chance de livrer G7, un jambon.
Il y avait de Otesa partout.
À M. Trump, et puis surtout toute sa...
Trump va taxer maintenant le jambon français. Alors, arrivons là sur les problématiques. D'ailleurs, sur Trump, pour faire une petite parenthèse, là, Jean-Claude, vous avez un avis sur le sujet ou pas?
Sur la taxe, notamment.
Sur la taxe.
Oui, bon, la taxe. La bonne nouvelle, vous savez quoi? C'est que là, depuis deux ans, on paie moins de taxes aux États-Unis.
Et ben voilà, donc on embrasse Donald. Très bien,
Donald.
Philippe Forbach, les accords mets et vins. Alors, comment on fait pour trouver un accord mets et vins? Donc, on a compris. Il faut un mai, il faut un vin, mais comment on fait pour que ça match si on n'a pas la chance d'avoir le 06 de Stéphane Tournier?
Alors, ce que j'explique souvent, c'est que nous, les sommeliers, on démarre avec le vin, parce que finalement, le vin, une fois qu'il est fait, lorsqu'il est le raisin est mûr, tout s'est bien passé, qu'on a acheté le vin que l'on aime, et on espère que les clients vont l'apprécier. On part du vin, en goûtant le vin, on essaie de s'imprégner de son esprit, d'où il vient, son terroir, un peu sa philosophie, mais surtout son goût. Et ensuite trouver le plat qui va le mieux convenir.
D'accord.
Ça, c'est une démarche qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre à la maison, mais lorsqu'on a la chance d'avoir des professionnels, quand on va dans un restaurant, qu'il y a un sommelier ou quelqu'un qui s'intéresse au vin,
ou chez un caviste,
ça fonctionne très bien.
Chez un caviste, bien
exactement,
bien sûr,
avec
bien sûr.
Des conseils.
Et c'est un des rôles du caviste,
sinon,
bien sûr.
Ce qu'on peut donner comme idée aux gens, c'est les associations de terroirs qui fonctionnent bien. Ce n'est pas le fruit du hasard que l'agneau d'Écosse va bien d'Écosse.
Avec les kilts. Non, pas du tout.
Ouais. Exactement, avec le Cahors, par exemple. Ouais. Ou que l'agneau produit dans le terroir Cévenol.
Ou le Pauillac, par exemple.
Oui, mais bon, pour rester dans la région ici, davantage avec effectivement les rouges du Pic Saint-Loup, de Montpérou, etc. Que les huîtres de Bouzigues, de Padissy, sur les tentes de Thau, vont très bien avec le Pic Poule de Pinet. C'est pas franchement le hasard, mais il y a une sorte d'homogénéisation dans l'esprit, mais aussi dans le goût qui s'est fait. Et ça fonctionne très bien. Donc, allez voir ce qui se passe sur place.
Oui, déjà localement.
Et localement,
Stéphane Tournier, vous proposez des menus associant donc votre belle gastronomie à des vins sélectionnés, si possible, de la région?
Oui. De toute façon, chaque plat à la carte chez moi a un verre de vin associé.
D'accord. Donc, un plat égale un verre. Ouais.
Donc, on met un verre différent avec chaque plat parce que je trouve qu'effectivement, c'est important. Déjà, on boit moins, donc il faut proposer du vin au verre. Mais en plus, c'est un plaisir pour nous de proposer différentes choses.
Moi, ce que j'ai vu chez vous qui a été exceptionnel, comme je l'ai vu chez un autre restaurant où il y a un très grand sommelier, c'est le jeu qu'on peut faire avec le sommelier sur les accords mets et vins, parce qu'il n'existe pas d'accord mets et vins parfait. C'est chacun, c'est sa
c'est
perception.
Personnel.
Il y a une tendance, si le sommelier la comprend, il va vous donner une possibilité. On n'a pas besoin de servir un plein verre. On peut servir, par exemple, dans un accord mets et vins, jouer, dire, voilà, il y en a deux ou trois qui peuvent aller bien. Vous commencez par lequel? On boit un deuxième.
Oui.
C'est un jeu qu'on peut faire. Après, bon, il faut ouvrir des bouteilles. C'est l'aspect économique aussi, il faut faire attention, mais... sincèrement, je crois qu'un bon sommelier là a un jeu extraordinaire.
C'est vrai. Paolo, chez les cavistes aussi, Robert de Bacchus par exemple, quand il y a des gens qui viennent en disant ce soir je fais une poularde à ma belle-mère,
c'est la base.
Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne revienne pas deux fois?
Non, mais c'est
souvent
ce que
je dis.
Philippe, il partait de l'idée du vin pour associer à un plat. Nous, on a pratiquement l'inverse, puisque le client, quand il vient dans une cave, il sait ce qu'il va manger ou ce qu'il veut cuisiner et il veut qu'on y associe un vin. Après, évidemment que c'est la sensibilité, l'expérience de chaque personne, mais en général, quand on aime le vin, on aime cuisiner. Et donc, cette sensibilité-là, elle aide, quoi. Donc, il faut s'intéresser, évidemment, à la gastronomie.
Et Jean-Claude, donc ça, vous le faites également sur Côté Masse aussi, hein. Donc, vous
proposez les choses, on a la chance d'avoir tous les vins du domaine. Je fais 170 cuvées. Mais aussi, j'ai créé une carte où je me suis fait plaisir. Il y a tout ce que j'estime correspondre à des très, très bons vins à travers le monde. Et j'ai le plaisir d'avoir mis à la carte un clin d'œil à un de mes mentors aussi, qui est Bernard Magret.
Ouais. Donc j'ai mis on l'embrasse, Bernard Magrec, voilà. c'est un grand
monsieur. Et puis des vins du monde, effectivement, des vins italiens.
Oui, les vins italiens,
autour du monde. Quoi, c'est
la carte est très diffuse.
Si je peux me permettre, parce que c'est pas Jean-Claude qui termine, avec un très bon rapport qualité.
Ah, excellent, c'est vrai qu'il y a 15 euros, 20 euros, 25 euros. On se croirait chez Stéphane Tournier. Merci à tous les quatre. Fin de cette émission spéciale pour savoir plus. Rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. Merci à Philippe, Paolo, Stéphane. C'est un vrai plaisir de compter parmi nous aujourd'hui. Et pour vous, un très, 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 très grand merci à Jean-Claude Mas de nous avoir accueillis pendant ces deux jours au sein des domaines Paul Mas. Encore bravo pour la qualité de vos vins. C'est une vraie chance, je pense, pour la région de compter une entreprise telle que la vôtre. Voilà, merci beaucoup à Sébastien et à Charlotte qui sont venus là passer le week-end avec nous à la technique. Ils ont été super, comme d'habitude. Et on se retrouve samedi à 12h30 en direct du caviste Nicolas à Paris. 31 place de la Madeleine. Voilà, la messe est dite, façon de parler. D'ici là, excellent déjeuner. Restez toujours fidèles à Sud Radio et surtout, respectez la consommation modérée et responsable.
Sud Radio Invino.